De quoi s'agit-il?
C'est tout ce qu'il y a de simple, voyons.
Enfin, qui êtes-vous?
Répondez.
Je ne sais pas pourquoi vous nous faites perdre notre temps.
C'est vraiment incompréhensible.
Alors j'écoute.
Merci.
Eh ben je vous écoute, parlez, allez.
Allez-vous me répondre, oui ou non?
Cinérama.
Vous en êtes sûr?
J'en suis certain.
Ah, un petit mot encore.
Cinérama.
Que faites-vous maintenant?
Actualité cinéma.
Ah bah voyez-vous ça.
Et tout le reste.
Je ne crains pas d'affirmer que notre émission est une entreprise de salubrité publique. C'est délicieux, nous avons tous nos petits fantasmes.
Je sais que vous êtes très occupés, aussi nous ne vous retiendrons pas longtemps.
Je serais ravi de vous croire.
Bonjour et bienvenue à Cinérama, une émission aujourd'hui quasiment consacrée au biopic, j'ai l'impression, qu'on va s'en rendre compte quand on va développer le sommaire. Bonjour Marine, bonjour Manu.
Oui, bonjour à tous.
Bonjour.
Vous avez chacun un biopic?
Eh bien oui, pour ma part, je vais vous parler de Judy, évidemment biopic consacré à Judy Garland, et je vais également vous parler du reboot de l'homme invisible, Invisible Man.
Et puis toi Manu?
Alors, un faux biopic, l'Etra Franco, je dirais plus un film historique quand même, mais voilà. C'est le nouveau film d'Amen Yabar, et puis je vous parlerai aussi d'un film qui s'appelle Lara Jenkins, un film allemand.
Puis moi aussi, j'aurai un biopic, une sorte de biopic en tout cas, Dark Waters de Todd Haynes, puisque c'est le combat d'un avocat contre la firme chimique Dupont. Et puis, eh bien, tous ces biopics, ce sera l'occasion de jouer un blind test pour bien découvrir le titre de 5 biopics en écoutant des extraits. C'est Cinérama qui débute avec la figure de l'homme invisible qui revient bien sous les traits de la violence patriarcale.
This is Cinérama.
Et ça, c'est clair.
J'ai peur.
T'as plus aucune raison d'avoir peur de lui.
C'était un sociopathe. Il contrôlait tout. Absolument tout. Il disait que je pouvais toujours m'enfuir, mais qu'il me retrouverait. Et qu'il s'approcherait de moi. Et que je le verrais même pas.
Alors attention, hein, c'est le conseil du jour. Si vous rencontrez un riche scientifique qui est également un pervers narcissique, parce que ça arrive quand même assez fréquemment, ne vous mariez pas avec. Vous pourriez vous retrouver à devoir combattre l'homme invisible. C'est un peu confus, je vais étayer mon propos. Cécilia, interprétée par Elisabeth Moss, est une jeune femme prisonnière donc de l'emprise de son mari, un génie de l'optique, qui est également un homme violent et manipulateur. Elle réussit à lui échapper. Par ailleurs, la scène d'introduction met la barre très très haut en termes de suspense et elle apprend peu de temps après qu'il s'est suicidé. Alors qu'elle tente de se reconstruire, des manifestations étranges lui font penser que son ex-mari n'est pas mort et qu'il la traque sans qu'on puisse le voir.
J'ai découvert quelque chose qui peut prouver que ce que je subis est réel.
Fais-toi aider. Adrian est mort.
Je suis allée chez lui. Il n'est pas mort. Il a découvert un moyen de se rendre invisible.
La seule chose encore plus extraordinaire que de réussir à devenir invisible, ce serait d'avoir imaginé un moyen de vous torturer au-delà de la mort. Le vrai génie d'Adrian, c'était de manipuler les gens.
T'approche pas!
Je vous en supplie, venez-moi!
Vous voulez dire que la personne qui veut vous tuer est dans cette pièce avec nous, mais qu'on ne peut pas la voir?
C'est le principe de l'âme invisible.
C'est ça. Eh bien, vous avez déjà tout compris, je n'ai plus rien à dire. C'est la troisième réalisation de Leigh Whannell, le scénariste entre autres de Saw, qui choisit de s'attaquer ici à la réécriture du mythe de l'homme invisible, maintes fois adapté au cinéma. Alors Verhoeven avait déjà exploré la face sombre de l'homme invisible dans Hollow Man, sorti il y a 20 ans, puisque Kevin Bacon y utilisait son pouvoir d'invisibilité pour faire le mal, entre autres pour violer des femmes. Le scénariste ici décide de garder cette notion d'homme invisible malfaisant, mais d'inverser le point de vue en se plaçant du côté de sa victime. Alors il surfe sur la vague MeToo et il le fait très bien, puisqu'il ancre son thriller dans une réalité sociale, celle des violences conjugales, et plus particulièrement des violences psychologiques, celles que l'on ne voit pas, transformant son film en une longue métaphore visuelle, qui plus est extrêmement flippante quand même, il faut le dire. Avec l'homme invisible, eh bien, les violences psychologiques sont poussées à leur plus parfait paroxysme. Comment croire une femme qui se dit victime d'une menace invisible? Le film réussit tout en gardant des ressorts scénaristiques très efficaces, qui s'apparentent à ceux du thriller. Il réussit à démarrer comme un drame social, on pense à Jusqu'à la garde. Il se poursuit comme un home invasion, pour finir comme un rape and revenge. Le mari violent devient une sorte de croque-mitaine qui poursuit sa femme sans relâche. Les références à Terminator sont d'ailleurs assez évidentes dans la dernière partie du film. Dans ce film d'horreur extrêmement maîtrisé, qui pose également la question suivante: comment faire peur avec quelque chose que l'on ne voit pas? Invisible Man use donc d'effets sonores, mais également de plans fixes dans lesquels eh bien, de minuscules détails changent pour attester de la présence de cet homme invisible, ce qui rend le spectateur extrêmement actif. Malgré quelques incohérences dans le scénario, le film est vraiment réussi, car il est inattendu de bout en bout. Je n'avais pas eu peur au cinéma comme ça depuis It Follows, un autre film d'ailleurs qui rendait lui aussi le spectateur actif par sa mise en scène et qui lui aussi s'ancrait dans une réalité sociale, dans une horreur sociale. Vraiment, j'ai crié trois fois dans le cinéma. Non, mais vraiment. Mais vraiment,
tu étais la seule ou pas? Parce
que alors non, pas du tout. On était terrifiés. Non, vraiment, mais tout le monde était terrifié. Et ça tient ce suspense qui est vraiment quasi insoutenable pendant deux heures. Ce qui est quand même assez virtuose, je trouve.
Donc, Invisible Man de Leif Whannell, on dit ça comme ça, c'est en salle depuis le 26 février. Un film qui est en salle depuis le 19 février, c'est Lettre à Franco de Alejandro Amenábar, le début du franquisme dans les yeux d'un célèbre écrivain.
À quoi sommes-nous confrontés?
Cinérama.
C'est quoi, c'est une blague ou quoi?
Arriba España! Arriba!
Alors après l'échec de Régression, un thriller anticlérical assez brillant, hein, Alejandro Amenábar revient avec un projet plus ambitieux, alors retraçant une facette de l'histoire de l'Espagne peu traitée au cinéma, l'arrivée du franquisme au pouvoir, intégrant au récit le cheminement laborieux d'un des écrivains les plus célèbres du pays, Miguel de Unamuno. Alors juillet 1936, l'armée prend le pouvoir. Unamuno soutient publiquement la rébellion militaire avec la conviction naïve qu'elle va rétablir l'ordre et préserver la République. En coulisses, en habile stratège, le général Francisco Franco manœuvre subtilement pour prendre le commandement de l'insurrection. Alors les arrestations des opposants se multiplient. Unamuno assiste impuissant à l'arrestation de ses amis et se rend progressivement compte de l'ascension du général au pouvoir. Alors plutôt taclé, bon, sans surprise par la critique, hein, Lettre à Franco s'avère quand même une bonne surprise. Un film certes académique mais qui traite réellement son sujet, qui ne cherche jamais à faire son malin et s'en tient à sa mission principale, raconter une histoire passionnante avec un minimum de soucis pédagogiques pour rendre intelligible une période trouble de l'histoire de l'Espagne. Alors l'une des forces de Lettre à Franco tient en premier lieu à la caractérisation des personnages qui sont tous très bien dessinés. Alors Franco, en premier lieu, n'a rien du bouffon grotesque, ni de la figure charismatique redoutée et redoutable. Il apparaît comme un homme effacé, intelligent et obstiné. Il n'est pas présenté comme un monstre. Il s'agit juste d'un militaire pugnace avec une véritable vision de l'avenir. Santi Prego, l'acteur, endosse le costume du général avec subtilité et nuance, rendant crédible une des figures les plus terrifiantes pour les Espagnols. Alors jusque-là, d'ailleurs, le dictateur n'apparaissait que sur des photos, pratiquement jamais au cinéma. J'ai cherché sur Wikipédia. Je crois que sa première apparition, c'est dans un film de Alex de la Iglesia, Balade Triste, où il apparaît, mais genre une minute, il me semble, hein, mais très très peu. Alors c'est assez curieux, hein, que autant on a vu Hitler des tas de fois, autant le général Franco, parce que c'est un personnage qui terrifie réellement les Espagnols, au point, c'est le vrai croque-mitaine, plus que l'homme invisible finalement. Hein.
Mais c'est l'homme invisible du cinéma espagnol alors.
Oui, voilà. Alors rendons grâce à Amenábar donc de briser ce tabou, hein, de crever un abcès qui parlera sans doute davantage au public espagnol que français. En face, plus fantasque, goguenard et ambigu, l'écrivain, hein, Unamuno incarne donc cet écrivain à la fois lucide et lâche, capable de toutes les compromissions pour préserver son université, sa famille, mais aussi ses amis. À travers cet intellectuel qui est un essayiste, romancier, philosophe, alors sorte d'Albert Camus ibérique en termes de popularité, Amenábar renoue avec son cinéma habituel, laissant planer le doute, jouant sur la réversibilité des situations. Il parvient même à créer un véritable suspense concernant le moment où Unamuno va sortir de sa petite lâcheté quotidienne faite de compromissions, à moins qu'il ne s'agisse de sagesse ou de désabusement. Le cinéaste ne tranche pas, laisse planer un doute, préférant rendre sympathique malgré tout ce vieux bonhomme malicieux et résigné qui finira malgré tout par s'opposer à la dictature lors d'un discours mémorable, vibrant et juste. Alors tout le film converge vers ce moment fort où Amenábar ne cherche absolument pas à innover. Il restitue la parole d'un vieux bonhomme de 72 ans, complexe, alors brisé, naïf, qui finit par se réveiller. Alors bizarrement, le personnage est interprété par un acteur qui a 59 ans, l'excellent Cara El Heralde, qui l'a évidemment grimé, hein, un comédien aperçu de chez Almodovar, mais aussi chez Alex de la Iglesia, c'est lui qui interprétait le personnage principal dans Action Mutante. La mise en scène d'Amenábar, si elle ne cherche jamais à innover, n'en reste pas moins élégante, et Vincent, le surmoi ou l'effet de signature sans non plus tirer vers l'esthétique télévisuelle. La reconstitution d'époque ne sent pas la naphtaline, elle est sobre, réjuste, ne multipliant pas bêtement les plans d'ensemble. Elle s'en tient intelligemment à quelques lieux phares, la maison d'écrivain, les réunions politiques, le café où se réunissent les amis et l'université. Les extérieurs moins nombreux sont souvent les mêmes, créant ainsi une familiarité bienvenue à l'image de l'amitié liant l'écrivain avec ses deux amis, le curé et le jeune universitaire communiste. Le travail sur l'image est souvent splendide, en l'occurrence pour tous les intérieurs en clair-obscur filmés dans la pénombre, laissant traverser à chaque fois des faisceaux de lumière, rappelant au passage le goût du cinéaste pour les atmosphères expressionnistes nimbées de fantastique. C'est de là où vient d'ailleurs Amenábar. Hein. On pourrait dire que le temps des autres est loin, mais le cinéaste espagnol ne démérite pas avec sa petite leçon d'histoire édifiante, mais souvent passionnante, à recommander à tous ceux qui ignorent tout un peu de cette période. Enfin, moi, j'ai appris des choses. Je suis toujours content quand je vois un film historique et de me dire que j'apprends quelque chose.
Mmh. Toi qui as séché les cours de cinéma, les cours d'histoire
surtout, oui.
En tout cas, si vous écoutez Cinérama, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir envie d'aller voir Lettre à Franco parce qu'il a été un peu gratigné par la critique, effectivement. D'une manière générale.
D'une manière générale, oui. Voilà.
Allez, Judy de Rupert Gould, qui a valu l'Oscar de la meilleure actrice pour son
René
interprète.
Zellweger.
Oui.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Si vous voulez appeler ça comme ça.
Quelqu'un a vu Judy ? Il y a des centaines de gens qui sont venus vous entendre chanter.
Ma bouche est toute sèche.
Non, 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 jamais. Écoutez-moi.
Je vous ai dit.
Non, ça va bien se passer. C'est à vous.
Nous sommes en 1968 à Londres. La célèbre Judy Garland a cessé sa carrière d'actrice, rompu le contrat qui la liait avec les studios MGM depuis son enfance. Et elle a accepté, de mauvaise grâce, d'entamer une nouvelle carrière de chanteuse afin de payer ses dettes surtout et de pouvoir revenir aux États-Unis auprès de ses enfants. Mais Judy a presque une cinquantaine d'années. Elle est usée par l'alcool, les drogues, la dépression. Chaque concert est une épreuve, d'autant qu'elle a tendance à ne pas rentrer dormir tout de suite après.
On va tout de même pas laisser la plus grande star du monde sans rien à boire.
Frank Sinatra est ici.
Frank est génial, mais il n'est pas Judy Garland. Je parie que ça le ronge.
Alors, Judy n'est pas vraiment un biopic à proprement parler, c'est un biopic partiel, ce qu'affectionne particulièrement Hollywood en ce moment. On prend un moment précis, la carrière ou la vie d'une personne, de préférence, on choisit quand même un moment assez charnière, hein, c'est-à-dire que c'est rarement sa dernière année dans un EHPAD qu'on choisit de raconter, et on le dissèque, on l'analyse, voire parfois on l'agrémente un petit peu. En choisissant de raconter la tentative de reconversion de Judy Garland dans la chanson, le réalisateur Rupert Gould aborde finalement bien des sujets. Il est question d'homosexualité, qui était à l'époque non seulement tabou, mais illégal, hein, ce qui a causé quand même pas mal de mariages malheureux. Judy Garland, notamment, a quand même eu 2 maris sur 4 qui sont avérés aimer les hommes. Il est question également du système hollywoodien, qui est montré de façon assez intelligente. Tout en sous-entendu, on voit par exemple le chantage affectif, la pression que les producteurs mettaient sur l'actrice, le fait qu'elle leur appartenait corps et âme. Hein, on le rappelle quand même, Judy Garland a commencé à se produire sur scène à 2 ans et est devenue une star mondiale à 13 ans grâce au film Le Magicien d'Oz. Dès son adolescence, eh bien on lui a donné des amphétamines tous les jours pour lui couper la faim, pour qu'elle garde son corps de jeune fille de 13 ans. Et grâce à ces flashbacks qui ont vraiment l'élégance de ne jamais être trop démonstratif, on comprend bien, eh bien comment tout cela a façonné une femme constamment malheureuse. Par ailleurs, le spectre de la mort plane véritablement sur le film, puisqu'on le sait, elle va décéder peu après, à 47 ans seulement. Malgré tout cela, eh bien, ne vous attendez pas à un drame façon La Môme. Judy, c'est le récit d'une déchéance joyeuse. Rien n'est jamais sordide, rien n'est jamais mélodramatique. Et la raison de ce ton, eh bien, qui demeure de part en part du film relativement léger, c'est la présence de René Zellweger, qui vient d'ailleurs de décrocher un Oscar pour ce rôle et qui insuffle quelque chose de très doux et de très lumineux au personnage, et puis qui s'est quand même sacrément investi, hein, puisqu'elle chante elle-même toutes les chansons du film. Clang, clang, clang went the trolley. Ding, ding, ding went the bell. Zing, zing, zing went my heartstrings. C'est la deuxième fois de sa carrière, hein, que Renée Zellweger est récompensée pour un rôle dans lequel elle chante, elle danse. Il y avait eu le film Chicago, elle n'avait pas eu l'Oscar, mais elle avait été nominée il y a une vingtaine d'années. Elle avait eu pas mal de récompenses à ce moment-là. Et c'est vrai que c'est quelque chose dans lequel elle est plutôt très douée. Hein. Et elle fait beaucoup quand même à la semi-réussite du film, qui n'est pas un chef-d'œuvre, mais qui se laisse vraiment regarder sans déplaisir.
Voilà, donc c'est Judy, un film en salle depuis le 26 février. Et donc, ces deux premiers films là, nous donnent l'occasion de jouer un blind test spécial biopic.
Et maintenant,
Cinérama.
Tout est parfaitement en ordre.
Et ça va être plutôt facile, enfin j'ai l'impression en tout cas, et on va commencer avec légèreté, j'ai envie de dire.
Tu te branles souvent ?
Si je me branle? Oui. Oui, je me branle, oui.
Combien de fois par semaine?
J'en sais rien, trois ou quatre fois, peut-être cinq.
Faut augmenter les chiffres, c'est pour les débutants ces chiffres-là. En ce qui me concerne, j'éjacule au moins deux fois par jour.
Waouh.
Une fois le matin, juste après ma gym, et une fois juste après le déjeuner.
C'est vrai?
Oui. Un peu, mon neveu. C'est pas seulement par envie. Mm-hmm. Je le fais parce que c'est salvateur. Tu vis avec des chiffres toute la journée. Mm-hmm. Des chiffres décimaux, des hautes fréquences, bang, bang, bang. Putain de chiffres, ça détruit les neurones, ça te met le bordel dans la tronche. Mm-hmm. Tu vois? Ça rend les gens barjots, ce truc. Mm-hmm. Ok? Tu dois lâcher la purée pour purger ton sang. Mm-hmm. Il faut maintenir le rythme sous la ceinture, mec. Pigé.
Alors, ça a été trouvé. Ah, alors, c'est pas évident facile. Avec la VF.
Alors, du coup, bah, c'est le loup de Wall Street. C'était Matthew McConaughey, mais oui. J'ai eu du mal.
Voilà, et qui était face à Leonardo DiCaprio, qui incarne Jordan Belfort. Et c'est lui qu'on suit dans son parcours à Wall Street dans les années 90. C'est 3 millions d'entrées en France. Deuxième extrait.
Mais il y a une petite chose qui me tracasse. Je suis actrice, bien sûr, mais avant tout, je suis une mère et une épouse. Alors, j'aimerais avoir des détails sur... la façon dont vous allez tourner la scène de la douche.
À la commission de censure aussi, ça les passionne.
C'est juste que... enfin, au-dessus de la ceinture, je ne suis pas exactement une garçonne, alors...
Laissez-moi donc dissiper votre inquiétude, ma chère. Je tournerai la scène en plan très court, sous différents axes. Mm-hmm. Et c'est grâce au montage que nous aurons l'illusion de la nudité, l'illusion de la violence. Rien ne sera réellement montré. Mais bien sûr, le fait que vous soyez sous la douche contribuera à faire monter... disons, l'excitation.
Oh, c'est facile.
C'est Hitchcock. Mm. C'était la voix française d'Hitchcock, là ?
Oui, c'était Anthony Hopkins, donc la voix française d'Anthony Hopkins, Anthony qui incarnait Hopkins. Hitchcock. Ouais. Voilà, film de Sacha Gervasi de 2012 qui a réuni seulement 241 970 spectateurs en France. Troisième extrait.
Je tiens à ce que cela soit très clair. Nous devons respecter les droits des paysans. Il est interdit de piller leurs champs de maïs. Il est tout aussi interdit d'importuner ces gens ou leurs familles. Si quelqu'un essaie, la justice révolutionnaire le lui fera payer.
Là, j'ai l'impression que vous séchez.
Oui, on sèche. Moi, alors, les champs de maïs...
C'est un grand révolutionnaire.
Danton, mais c'est pas ça. Non.
Et là, on entend une espèce de traduction un peu naturaliste. Hein. On entend énormément le son. C'est le son de la jungle. C'est un film de Steven Soderbergh de 2008.
C'est pas le Che,
oui,
Che Guevara.
C'était la voix française de Benicio del Toro.
C'était au Moyen-Âge, moi. Moi aussi. Très, très loin.
C'était la première partie intitulée L'Argentin, donc c'est l'adaptation cinématographique des mémoires, souvenirs de la guerre révolutionnaire, donc de Ernesto Che Guevara, 547 000 entrées en France. Quatrième extrait.
Ne me détestez pas trop vite, ils me haïssent tous déjà. Vos frères, les Guises bien sûr. Et votre mère ne m'aime pas beaucoup.
La vôtre ne m'aimait pas non plus.
La vôtre a tué la mienne.
Rien ne prouve.
Vous faites semblant d'être forte, mais vous avez aussi peur que moi.
De quoi aurais-je peur? Tous ceux qui ici vous détestent même.
Alors pourquoi vous impose-t-il ce mariage?
C'est un mariage pour la paix. Personne ne m'oblige à coucher avec vous.
Alors, tu as dit Marie-Antoinette?
Non.
Alors, c'est un mariage politique pour la paix entre catholiques et protestants, avec le couple...
C'est
Marguerite de Valois et Henri de Navarre.
C'est pas la reine Margot,
oui.
La reine Margot.
Film de Patrice Chéreau de 1994, qui a eu de nombreux prix, notamment prix d'interprétation féminine pour Virnalisi, prix du jury à Cannes, et puis 5 Césars, dont celui de la meilleure actrice pour Isabelle Adjani. De toute façon, il suffirait de faire jouer un cintre à Isabelle Adjani pour que tout le monde aille voir le film. Et c'était effectivement 2 millions d'entrées en France pour La Reine Margot. Dernier extrait de ce blind test spécial biopic.
Tu fais quoi, au juste ?
Je joue de l'orchestre. Tu es un excellent musicien. Tu as ta place là-bas. T'es le meilleur sur ton instru.
Je suis venu ici pour vider l'abcès. Et tu sais pourquoi je suis venu ?
Tu viens de le dire,
hein ? Je suis venu parce que tu vas te faire lyncher. Et ta machine va se planter. Le conseil consultatif de l'enseignement supérieur t'a dit qu'il voulait un poste de travail solide à 2-3 000 $. Ton next, tu l'as mis à 6 500. Ce qui n'inclut pas le disque dur optionnel à 3 000 $, dont on va comprendre très vite qu'il n'a rien d'optionnel parce que le disque optique a une capacité trop faible.
Avec l'imprimante laser à 2005, ça nous met le total à 12 000 dollars. Et t'es la seule personne au monde à être complètement obsédée par la perfection de son cube.
Alors, ça a été trouvé.
En même temps.
C'était technique. Donc, Steve Jobs, film de Danny Boyle de 2015.
C'était Michael Fassbender.
Oui, tiré de la biographie du cofondateur d'Apple. En fait, le film est composé de trois actes décrivant eh bien, certains lancements commerciaux réalisés par Steve Jobs, notamment le Cube. Ces lancements ont été faits durant sa carrière. Et puis, il y a le petit fil conducteur, c'est leur relation entre le patron américain et sa fille. Eh bien, ça a réuni 167 868 spectateurs seulement en France. Ça n'a pas du tout fonctionné. Autant dire que les adeptes de
ils
Apple...
Vont ils ne vont pas au cinéma, c'est
ils
tout.
Ils sont très nombreux, oui. Oui, n'y vont pas. Ou ils attendent que ça sorte sur les réseaux. Voilà, ainsi s'achève le Blind Test spécial biopic. Et on va retourner vers un biopic avec le film de Todd Haynes, Dark Waters.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Non, j'ai été plutôt déçu. Alors c'était sûrement une comédie.
Votre grand-mère m'a dit que son petit-fils était avocat à Cincinnati, spécialisé dans l'environnement.
Je crois que vous n'avez pas compris. Je suis avocat d'affaires, donc je défends les entreprises de chimie.
Bah, maintenant, vous allez me défendre.
Avec un président américain comme Trump débarrassé du complexe de pollueur, il apparaît presque étrange de voir porter à l'écran une chronique judiciaire qui a opposé un avocat pugnace à l'une des plus grandes sociétés chimiques mondiales, à savoir Dupont. Rien à voir avec les joyeux Dupont et Dupont, hein, mais plutôt avec Nemours. Et ce qui est révélé dans Dark Waters de Todd Haynes n'est ni plus ni moins qu'une affaire d'empoisonnement à grande échelle orchestrée par une puissante société qui savait très bien ce qu'elle faisait quand elle produisait le téflon dans la ville de Parkersburg en Virginie occidentale. Elle savait combien les rejets dans l'eau étaient toxiques et voués à finir dans le corps des habitants quand ce n'était pas à plus forte dose dans l'organisme des employés de cette grande entreprise qui faisait vivre toute la région. Or, si Dark Waters est un film de dénonciation et montre le combat d'un avocat contre une firme qui ne veut rien avouer, le film de Todd Haynes ne prend pas l'allure d'un Erin Brockovich avec une héroïne époustouflante. Todd Haynes nous a plutôt habitués d'ailleurs à des mélodrames hein, dans lesquels les personnages ont du mal à suivre leur voie, écrasés qu'ils sont par leur milieu ou éducation. Avec ça, le réalisateur est méticuleux, hein, se remémorera son exposition des années 50 dans son avant-dernier film, Carole. Et ce n'est pas un hasard si Mark Ruffalo, qu'on est content de voir autrement que grimé en Hulk, et qui est le producteur de ce film, eh bien, a choisi le réalisateur américain. Le film commence étonnamment comme un film d'horreur avec un groupe de jeunes qui vient faire un bain de minuit dans une eau dans laquelle eh bien, des hommes ont semble-t-il l'habitude de verser un produit. Cette séquence est lointaine. Dans les années 90, et amorce une histoire judiciaire qui va s'achever proche de nous. Alors curieusement, Robert Bilott, interprété par Mark Ruffalo, est un avocat spécialisé dans la défense des industries chimiques. Et c'est lui qu'un fermier vient voir en ville à Cincinnati pour qu'il dévoile la vérité sur les agissements de Dupont. Ce fermier a une flopée de cassettes VHS hein, sur lesquelles eh bien, ses vaches sont agressives, malades, sinon mortes. Et il en est sûr, c'est la chimie de Dupont qui est la cause du désastre. Et si l'avocat accepte de prendre au sérieux cette affaire, c'est que cette ville polluée par une multinationale, eh bien, c'est celle de sa grand-mère chez qui il passait ses vacances.
Vous avez perdu 190 vaches.
Vous allez pas me dire que c'est normal, vous aussi.
C'est juste une petite affaire pour un ami de la famille. Et au moins, on aura aidé quelqu'un.
Le fermier ou toi ?
C'est les produits chimiques qui font ça.
Je comprends pas tout dans leurs archives. On nous cache des choses. Ce produit chimique, ça ferait quoi si on en buvait ?
En boire ? C'est comme de demander, et si j'avale un pneu, c'est grave ?
Imaginons que ce qui fait mourir toutes ces vaches, c'est quelque chose qui est dans l'eau du robinet.
Chez Dupont, promettre une vie meilleure grâce à la chimie, ça fait partie de notre ADN. Vous tenez vraiment à foutre votre carrière en l'air ? Tout ça pour un bouseux ?
Le film s'efforce patiemment de nous immerger dans le combat et les souffrances de cet avocat qui sait qu'il lutte contre un géant. Alors pour cela, il va risquer sa carrière au sein d'un cabinet d'avocats dans lequel il se retrouve de plus en plus isolé et va aussi faire vaciller son couple et sa famille. Grâce à une mise en scène claire exploitant parfaitement les lieux, des grandes tours, des villes aux fermes boueuses de l'Amérique profonde, eh bien, les intérieurs aussi sont magnifiés par le réalisateur, comme les maisons, les salles de réception ou les bureaux des avocats. Eh bien, on comprend nettement eh bien, tous les ressorts d'une intrigue épuisante car elle s'étire dans le temps, hein, plus de 20 ans, et semble toujours se dérouler en hiver dans une lumière retenue. Elle assombrit le personnage principal qui semble s'effondrer malgré les astuces et l'idéalisme dont il fait preuve contre une entreprise qui finit par l'assaillir de documents avant de le contraindre à jouer le jeu d'une procédure qui pourrait durer 3 décennies.
Dupont a délibérément empoisonné plus de 70 000 citoyens pendant 40 ans. Vous saviez, pourtant vous n'avez rien fait.
Tu veux prendre tout ce que tu sais
et utiliser ça contre le géant américain de l'industrie chimique. Donc t'es un informateur, c'est pas vrai? C'est pas vrai? C'est pas vrai?
Si.
Le système est truqué. Ils veulent nous faire croire qu'ils nous protègent.
Alors, la bande-annonce est volontairement rythmée.
Punchy.
Le film l'est beaucoup moins, mais très intéressant. Alors, on ressort de ce film qui laisse poindre l'émotion, moins alerte qu'avant d'y être entré, même s'il raconte ce qu'on sait déjà, à savoir la mainmise du capitalisme sur la société et le pouvoir politico-économique aux mains d'une poignée d'hommes sans scrupules. Eh bien, Dark Waters n'en reste pas moins une œuvre aboutie, aussi sombre qu'éclairante, plus proche du documentaire sensible que du divertissement. Le film est tiré de faits réels, ce dont on se serait douté. Alors, on s'amusera des différences, d'ailleurs, entre le jeu sombre de Mark Ruffalo et l'apparente bonhomie du véritable avocat qui fait une apparition dans le film. Alors ça, c'est une coquetterie inspirée par les séances de test. En fait, ils ont fait des séances de test, ça arrive aux États-Unis et même un peu en France parfois. Donc, et là, les spectateurs se sont dit, mais c'est quand même dommage, vu que c'est tiré de faits réels, qu'on ne voit pas le personnage puisqu'il est vivant.
Sacré américain.
Et donc, le réalisateur a eu l'idée de le faire jouer dans une scène voilà, où... bon, j'en dis pas plus. Donc, le film de Todd Haynes, je le recommande énormément. C'est un film finalement alors qui nous raconte une sacrée épopée judiciaire, mais qui reste un film alors très émotionnel parce que on est vraiment derrière cet avocat. Bon, interprété avec un Mark Ruffalo là qui s'éloigne de tout ce qu'il a fait, me semble-t-il, dans sa carrière. Ce film est dans les salles depuis le 26 février, tout comme Lara Jenkins, film allemand dont on dit bien que ce serait du Haneke avec de l'humour en plus.
Comment faites-vous pour choisir un film ?
Cinérama.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là, préciser ?
Oui, c'est un peu ça. On peut voilà, un peu de choses près, c'est un peu ça. Alors après Nina Hou, sorti tout récemment, voici un autre portrait de femme, Lara Jenkins, dont le parcours s'avère diamétralement opposé. Alors le jour de ses 60 ans, l'idée lui traverse l'esprit de se défenestrer, mais le hasard de la vie peut changer un plan funeste. Deux policiers l'interrompent dans sa décision, l'invitant à être témoin d'une perquisition liée à un problème de voisinage. Cet empêchement va déclencher une prise de conscience pour cette femme glaciale et impitoyable. Elle n'avait en fait aucune raison de se suicider en apparence. Son anniversaire coïncide avec le concert de piano donné par son fils Victor, sans doute le plus important de sa carrière, celui où il va enfin laisser libre cours à sa créativité en présentant une composition. Le conflit mère-fils n'est pas au cœur de leur relation, Lara l'ayant toujours soutenue depuis le début, au point de penser que le fruit du succès lui est redevable. Elle fut son professeur de piano, mais Victor est injoignable là depuis des semaines, laissant planer l'hypothèse que sa mère ne serait pas la bienvenue lors de la représentation. Alors, tel un fantôme, hein, sauvé du plongeon in extremis, elle va tenter en une journée de se racheter, de faire le bilan d'une vie passée à mépriser les autres. Première idée incongrue, alors symptomatique de son incapacité naturelle à nouer des relations sociales, elle achète tous les billets restants du concert, les distribuant à son entourage, surpris par un tel acte à la fois absurde et inattendu. Cette silhouette spectrale, presque dénuée d'émotion, nous est dévoilée à travers les autres d'une façon subtile par le réalisateur Jan Ole Gerster, hein, qui a su entretenir le suspense. Non, Lara Jenkins n'est pas seulement une pauvre mère névrosée et dépressive, gagnée par la mélancolie et le sentiment de gâchis, elle est aussi une sacrée peau de vache qui en a martyrisé plus d'un lorsqu'elle dirigeait un service administratif. Au gré des rencontres, la personnalité de la sexagénaire se dévoile et un paradoxe surgit. Plus les raisons de la haïr deviennent évidentes, puis elle envahit l'espace, suscitant une forme d'empathie. L'indifférence polie envers une figure stéréotypée d'un certain cinéma d'Europe de l'Est agace durant les premières minutes. Alors la crainte d'assister à un pensum un peu conceptuel fustigeant le système libéral, alors validé par des individus fautifs, incapables de communiquer ou d'éprouver le moindre sentiment, eh bien n'a pourtant pas lieu. La mise en scène distanciée, voire austère, privilégiant les plans fixes cadrés à la perfection, forme idéale pour les décors aseptisés aux couleurs ternes, accentue cette fâcheuse impression dans un premier temps, mais rapidement déjouée par une arme redoutable, présente du début à la fin un humour décapant et décalé que l'on retrouve aussi dans la bande-son, utilisant à plusieurs reprises le morceau de France Gall suivant, alors qu'il est utilisé un peu en contrepoint ironique vis-à-vis du discours du film.
Ne dites pas que ce garçon valait rien. Il avait choisi un autre chemin. Et pour quelle raison étrange, les gens qui pensent autrement, ça nous dérange, ça nous dérange. Il jouait du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais
Le réalisateur a dit qu'il avait utilisé ce morceau comme ça, parce que ça lui est venu à l'esprit. Non, mais c'est, il n'a pas su vraiment expliquer pourquoi.
C'est le génie, hein. Ça, voilà. Ça s'explique pas.
Alors, l'humanité grandissante que développe le scénario envers son personnage tient à cette dimension sarcastique d'une méchanceté parfois jouissive. Lorsque Lara s'incruste dans une école de piano et tyrannise un élève en se faisant passer pour une prof sadique, ou lorsqu'elle propose des places de concert à une de ses ex-employées qui lui dit l'avoir toujours détestée. Alors, un mauvais esprit traverse ce film ténu, construit autour d'un dispositif identique au précédent film du réalisateur, Oh Boy, qui racontait la journée d'un jeune Berlinois à la recherche d'une tasse de café pas chère. Voilà, Ole Gerster observe les agissements de son héroïne sur le même mode opératoire, réduit à une temporalité très courte. Comment faire le bilan d'une vie en une seule journée ? Mission périlleuse qu'elle apprendra à ses dépens, fragilisant sa perception du monde. Alors derrière son masque rigide se drape une vulnérabilité qui explose en fin de parcours lorsque son fils décide à sa manière de couper le cordon, de prendre son envol et mettre sa mère face à une cruelle vérité. Désarmée et seule, Lara finit vaincue, mais devient autre chose qu'une enveloppe vide, qu'un monstre d'inhumanité. Le réalisateur lui laisse une chance de renaître, de s'ouvrir aux autres. Alors cette petite odyssée réparatrice, confinée dans un espace-temps délimité, s'éloigne du petit théâtre formaliste d'un Michael Haneke grâce à la réussite d'un portrait de femme ambivalent, aussi ironique que lucide, laissant transpercer quelques bribes d'émotion. Alors ce n'est pas lorsque le film rejoue la partition de la pianiste sur les rapports mère-fils qu'il s'avère le plus convaincant, mais dans son observation minutieuse des personnages secondaires, galerie iconoclaste et pertinent du petit peuple allemand rabaissé par une figure autoritaire qui pourrait symboliser le pouvoir. Alors, le film trouve sa raison d'être, parvient à émouvoir quand la statue de Marp commence à se fissurer, fissure trouvant écho dans une mise en scène qui s'assouplit vers la fin, plus ample, acceptant enfin que la caméra enveloppe son héroïne, magnifiquement interprétée par Corinna Harfouch. Je ne sais pas comment on prononce, c'est une Allemande. Harfouch, voilà.
Lara Jenkins, donc, c'est en salle depuis le 26 février. Ainsi s'achève Cinérama.
C'est fini ?
Eh bien, oui, je crois que oui. Oh,
c'est pas possible.
Ah, si, je vous assure.
Vous n'avez pas perdu de temps, c'est très bien.
Foutez ma gueule !
On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau blind test.
Et un nouveau biopic aussi pour ma part, parce que je vais vous parler du film De Gaulle avec Lambert Wilson.